Radio Franca, c'est la radio des enfants. Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Bonjour, c'est Lulu de 609. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal des SSI. Je suis en compagnie de cette classe dont je fais partie. Aujourd'hui, nous accueillons Artiom. Artiom, un élève d'origine moldave qui est ici en France, qui va nous expliquer pourquoi et comment. Je suis également en compagnie de Axel.
Salut, salut.
Il y a également Théo.
Bonjour.
Ryan.
Bonjour.
Valentin.
Bonjour.
Lisa.
Bonjour.
Artiom.
Bonjour.
Manon.
Bonjour.
Nassima.
Bonjour.
Et Jessica.
Bonjour.
Ainsi que la professeure, Madame
Duba.
Bonjour.
Avant toute chose, j'aimerais honorer un de mes camarades. Et bon anniversaire, Axel.
Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to Axel. Happy birthday to you.
Merci à tous, merci.
Merci moi, cher Axel, je reprends la main maintenant. Artiom, tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Et alors, Artiom, vous êtes un cas non pas particulier, plutôt une personne immigrante. Donc, vous êtes moldave et vous êtes venu en France il n'y a pas très longtemps. Et j'ai avec moi Valentin Avanzata, un invité de cette émission, qui va vous poser quelques questions. Mon cher Valentin, c'est à vous.
Bien déjà, bonjour Artiom.
Bonjour.
La première question qui viendrait à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que vous êtes venu en France?
Je suis venu en France parce que en Moldavie, je n'aurais pas un bon futur. Ici, si je fais mes études, je peux devenir quelqu'un. Mais là-bas, c'est dur de devenir quelqu'un. On ne peut pas avoir une très belle vie.
Et pourquoi particulièrement est-ce que c'est difficile de devenir quelqu'un? Quelles sont les difficultés?
Parce que l'économie du Moldavie, elle n'est pas très développée.
Artiom Nikolaev, est-ce que la qualité de vie de la France est-elle meilleure à celle de la Moldavie?
Bien sûr qu'elle est meilleure, mais il y en a des atouts ici, il y en a des atouts là-bas, ça dépend. J'aime bien la Moldavie parce que j'ai les copains, j'ai la famille, ici c'est plus particulier. Mais avec le temps,
ça va s'améliorer.
Oui, ça va améliorer.
Et du coup, vous avez encore de la famille en Moldavie. Et actuellement, quelles sont vos relations avec eux? Est-ce que vous les voyez souvent ou pas?
Oui, je parle souvent. J'ai un grand-père là-bas. Et quand... Tous les étés que je vais en Moldavie, et je vais le voir.
Et comment s'est passé ce changement de vie, cette migration vers la France?
C'était dur parce que déjà, l'école, là-bas, on commence à 8h30 et on quitte maximum à 15h. Ici, on peut quitter à 18h. Et c'était un gros changement pour moi. Les cours, ils durent 45 minutes là-bas. Ici, c'est 55. Et en Moldavie, entre chaque cours, on a un minimum 10 minutes de pause.
Alors maintenant, une question qui prend un peu plus d'ampleur, je dirais, parce qu'il s'agit de l'histoire, parce que la Moldavie, elle faisait partie de l'URSS il n'y a pas si longtemps que ça encore. Et alors, quels sont les restes de l'URSS sur la vie de tous les jours?
Bah, avec la Moldavie, avec la Russie, ils ont dans un bon, dans des bonnes conditions.
Des bons rapports.
Comment?
Des bons rapports.
Oui, excusez-moi. Tous les marchandises de Moldavie sont exportées en Russie, en Ukraine, dans les ex-URSS.
URSS.
URSS.
Oui, ouais. Donc la Moldavie était une RSS, République sociale soviétique, qui s'intégrait justement dans l'union qu'a créée Lénine.
Oui.
Une petite question, Artiom, pour terminer. Est-ce que la Moldavie, c'est un pays qui peut faire rêver?
Les paysages sont comment?
De façon touristique.
En fait, la Moldavie, c'est un pays plus rural. Il y a des beaux paysages de la campagne, mais il n'y a pas de montagnes. En Moldavie, il n'y a pas de la montagne, il n'y a pas de la mer. Mais il y en a des beaux paysages avec des champs, avec différents belles beaux églises.
D'accord, donc c'est un décor rural.
Oui.
D'accord.
Oui, avant de terminer, Artiom, avec vous, je voudrais que vous nous fassiez vivre la Moldavie, c'est-à-dire quelles sont ses spécialités culinaires, la culture, tout ce qui fait vivre cette Moldavie, justement.
Faites-nous rêver.
En Moldavie, la plus grande spécialité, c'est le vin. On a une cave trop grande. Il y a une rue qui contient plus de 100 km carrés.
Une petite surprise de la part de notre professeur qui voudrait que vous parliez un mot de moldave ou de russe, comme vous.
Quel mot?
Bonjour.
Bonjour, par exemple.
Salut.
Dobrydin. C'est en russe.
Russe.
Et en moldave, c'est Bunaziwa.
Bonjour, les Français.
Comment?
Bonjour, les Français.
Добрый день, французы, et en moldave c'est bonjour, francesi.
On voit que c'est des langues qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres, parce que elles ont des origines différentes.
Oui. Le russe c'est le russe, et moldave c'est le moldave. C'est le roumain.
Donc c'est une langue d'origine latine, le moldave.
Oui.
D'accord.
Ce sera le mot de la fin, Artiom Nikolaev. Merci beaucoup d'être venu dans notre émission. Sans transition, nous passons au Prix Renoir. Le Prix Renoir, le lycée Alfred Mézières de Longwy participe, et sa classe notamment participe au Prix Jean Renoir dit lycéen, qui est un prix cinématographique au lycée. Donc j'ai avec moi Nissa Belkessa.
Bonjour.
Ryan Lemaître.
Bonjour.
Et Manon Brem.
Bonjour.
Voilà. Alors, dites-nous en plus sur ce prix. Qu'est-ce que ce prix, justement?
Le prix Renoir, c'est un prix des lycéens. Donc, on va voir sept films de différentes cultures. Sept films même à thèmes différents. C'est des films qu'on n'irait pas forcément voir dans la vie de tous les jours. Ça peut être des films primés au Festival de Cannes, comme Au revoir là-haut, par exemple. Mais ou aussi d'autres films. Ah, The Score, pardon. Et voilà.
Nissa, à vous.
On a été aussi voir d'autres films tels que La Douleur, Cœur Pur, Le Petit Paysan, Carré 35.
Par exemple, La Douleur, elle a été inspirée d'un livre de Marguerite Duras. Donc c'est pas forcément tous les réalisateurs qui choisissent de faire ce film, ils sont aussi adaptés d'un livre, comme Au revoir là-haut.
Oui, en effet, en préparant cette émission, j'ai pu consulter le site internet du prix Jean Renoir, et celui-ci nous indique que les films ont été primés au Festival de Cannes, ce qui n'est pas rien d'ailleurs. Nissa, quels sont les films qui ont été justement primés à ce Festival de Cannes?
Il y a The Square, Carré 35, et aussi...
La liste est longue comme le bras.
Et aussi Petit Paysan.
Il y a aussi certains qui ont été primés au César 2018, comme, il me semble, Au revoir là-haut, qui a été plusieurs prix, deuxième film, il me semble. Il y a aussi eu Petit Paysan pour un second rôle, il me semble.
On peut aussi voir, il y a aussi des films sous forme de documentaires, comme par exemple Carré 35, qui est un film qui retrace la vie du réalisateur, où il va interroger ses parents et sa famille pour mener une enquête par rapport à l'histoire de sa sœur disparue à l'âge de 3 ans.
Et ces films sont des films que, grâce au prix Renoir, vous avez découvert. Vous aurez pu aller directement, vous, au cinéma, regarder ces films.
Moi, personnellement, je ne serais pas allée voir ces films-là. Mais en plus d'avoir découvert des films, j'ai aussi découvert des livres, comme par exemple Au revoir là-haut, ou alors même La Douleur. Enfin, je connaissais de nom, mais ça me donnait pas. J'avais pas forcément envie de le lire, et le film m'a donné envie de le lire.
Pour chaque film, on doit réaliser une vidéo, une critique, et À la fin des sept films, on va choisir le meilleur film. Et deux élèves de la classe vont aller à Paris au Festival du Prix Renoir pour débattre pour son film préféré.
Cette classe 609 avec la professeure que nous devons saluer, Madame Dubas. Est très impliquée dans ce prix, et il semble qu'il y a un certain impact de certaines émotions et sentiments lors de la projection des films. Ryan Lemaître, vous le confirmez?
Oui, après ça dépend des films aussi, comme Carré 35 qui a retracé sa vie, l'histoire de sa sœur qui est morte d'une maladie. Mais après d'autres films comme Au revoir là-haut qui est plus de la fiction, on va dire, donc là c'est autre chose.
Mais en préparant cette émission, j'ai aussi remarqué que ces films n'avaient pas fait beaucoup d'entrées au box-office, bizarre par Au revoir là-haut. Mais ce ne sont pas des blockbusters. Mais on peut dire que ces films ont eu un impact sur vous, et ça vous fait réfléchir beaucoup. Nissa Belkessa, est-ce que ces films justement vous font réagir, ont un impact sur vous, ou ça vous laisse... sans voix.
Cela nous laisse réfléchir sur les problèmes du quotidien, les problèmes de la vie, sur le passé aussi, pour, concernant le film Au revoir là-haut, qui parle de la guerre.
D'accord. Et Manon Brême, une petite question pour vous. Ces films, dont beaucoup sont étrangers, ne sont pas produits en France, vous les voyez en version sous-titrée ou en version française ?
Mis à part pour les films français, évidemment, on regarde tous les films en version originale sous-titrée. Y avait un film suédois, il y avait un film italien. Par contre, on apprécie pas. Il y a certaines personnes qui vont apprécier de le voir en version originale sous-titrée, mais il y a d'autres personnes qui vont préférer la version française, enfin avec des voix françaises.
Oui, je vous remercie beaucoup, Manon, Nissa et Ryan pour cette intervention et dont je souhaite le meilleur pour ce festival du Prix Renoir et que vous gagnez ces prix. Merci beaucoup. Il y a maintenant, je voudrais parler maintenant de ce trophée, du trophée du prix Jean Renoir. Les élèves de la classe de 609 préparent un trophée pour remettre aux réalisateurs ayant gagné ce prix. Et Jessica Alliont et Nassima Mahataoui vont nous expliquer ce trophée et ses caractéristiques et sa conception.
Afin de représenter notre filière, les SSI et notre classe est marquée cette année, on a voulu réaliser un trophée en forme de caméra et donner une petite touche personnelle en y incorporant des LED.
On a voulu représenter notre classe comme on est une filière un peu scientifique, ingénieur. Notre prof de français, elle nous a demandé si on voulait réaliser le trophée qui sera donc remis au gagnant du prix Renoir, au réalisateur. Et ça nous permet d'apprendre des nouvelles choses dans la SI. On va pouvoir concevoir et créer le trophée. Au début, on était trois groupes et on a dû envoyer un dossier au prix Renoir et notre groupe a été choisi. Donc on va réaliser une caméra et dans le socle, il y aura sept petits cubes en verre dans lesquels il y aura une petite figurine qui représentera chaque film. Et la figurine du prix gagnant, elle sera sur le devant du socle. Donc on va devoir tout réaliser, on va devoir acheter tous les matériaux, ensuite concevoir le trophée et on va devoir ajouter notre touche personnelle qui est la LED et les petites figurines dans le socle.
Je suis également en compagnie de Valentin Avanzata, l'un des 8 partenaires qui participent à cette création. Valentin, est-ce que cette création, est faite au naturel ou est-ce que vous êtes inspiré de quelque chose?
On s'est dit que comme on faisait un trophée cinématographique, on allait faire une caméra, ça nous a semblé logique. C'est vrai qu'on n'a pas trop hésité là-dessus, mais on a eu des problèmes au niveau des dimensions, parce que c'est vrai qu'on doit faire des dimensions assez réduites, c'était notre plus grand problème, mais maintenant c'est réglé tout ça. Et c'est vrai que c'est un projet. On avait un peu de mal à s'organiser au début, mais maintenant ça va sans problème. C'était un projet qui était plutôt intéressant. D'ailleurs, pourquoi je dis c'était? Parce que c'est toujours le cas, on n'a pas fini encore. Mais c'est un projet qui est plutôt intéressant à développer. C'est l'ambiance pendant la réalisation est très très sympa. Hein, donc c'est un projet que j'espère qu'on pourra mener à bien.
Oui, merci. Je vous remercie. Jessica, votre professeur de sciences de l'ingénieur, Monsieur Nanty, collabore avec vous pour faire un travail de qualité. Est-ce que vous n'avez pas peur du travail pour rien, c'est-à-dire de ne pas gagner?
Mais de toute façon, il n'y aura pas de travail pour rien parce que ça nous aidera à progresser en SI. Et bah, on espère qu'on gagnera quand même parce qu'on se donne à fond dans le projet. Et monsieur Nanty, il est là pour nous aider. Il nous aide à choisir les matériaux, il nous aide à faire du mieux qu'on peut. Et de toute façon, même si le trophée il gagne pas, on pourra le présenter aux autres classes et montrer de quoi les SI sont capables.
Nassima, je crois que vous voudrez rajouter quelque chose.
De toute façon, c'est un entraînement pour l'année dernière, parce que dans ce cas-là, pour l'année prochaine, on sera obligé de réaliser les pays.
Et les
projets interdisciplinaires. Et du coup, on sera bien obligé de créer un projet de nous-mêmes. Et puis, ouais.
Donc ça représente un avant-goût de ce que vous aurez en faire en terminale.
Oui, voilà.
D'accord. Peut-être un dernier mot, Valentin. Cette construction, et avec les moyens, on sait les moyens du lycée, elle va prendre un certain temps. Vous estimez la durée de construction à combien de temps ?
J'en ai aucune idée, mais on va trouver un truc. Je sais qu'on va trouver un moyen de le réaliser dans les temps, peu importe comment on va faire, on va le faire. Voilà.
Eh bien, écoutez, je vous souhaite tout le bonheur que... je vous souhaite tout le bonheur et je vous remercie pour cette excellente prestation.
Merci
et à la prochaine. Sans transition, nous allons parler toujours cinéma avec la classe qui participe à la réalisation d'un court-métrage. Donc il s'agit de Valentin, toujours présent, de Thibaut Vaugiac et de Lucas Gélézuinas, qui vont nous rejoindre dans quelques instants. En attendant, une première question à vous, Valentin.
Oui.
Qu'est-ce qu'un court-métrage, pour faire simple ?
Pour faire simple, un court-métrage, c'est simplement comme un film, mais en dessous d'une heure. Voilà, tout simplement.
Et dans quel cadre vous réalisez ce court-métrage ?
Il s'agit du prix des lycéens. Des lycéens et apprentis au cinéma. Excusez-moi.
Ce n'est rien. Luca, vous êtes un des trois concepteurs de ce court-métrage. Quelle est votre base de travail, c'est-à-dire l'idée fondamentale?
En gros, le thème principal du court-métrage, c'est le...
On travaille sur la schizophrénie. Voilà.
Oui, voilà.
Ah, je vois que vous êtes dubitatif, mais un sujet très sensible, n'est-ce pas, Thibaut Vaugiac? C'est vrai, cette maladie mentale touche des millions de personnes, mais comment représenter justement cette maladie à travers votre court-métrage?
Alors, on a voulu représenter quelqu'un qui paraît normal dans une situation... justement, du quotidien, il est en train de jouer aux échecs au début.
Du quotidien, pas tant que ça finalement, mais après.
Jouer aux échecs, c'est du quotidien.
Oui, mais en général, au quotidien, on ne se trouve pas dans un asile psychiatrique.
Hey. Je tiens à arrêter tout débat entre vous deux.
Spoiler.
Merci. Reprenons, Thibaut. Reprenons.
Il n'y a pas de soucis. Non, donc du coup, on a voulu représenter quelqu'un qui joue aux échecs. Je vais laisser la parole à Lucas pour la suite.
Ah, c'est une partie de plaisir ici en studio, hein.
Et donc, ce joueur d'échecs joue en fin de compte contre lui-même, sans vraiment s'en rendre compte. Et le but du court-métrage va être de montrer cette situation-là en la laissant simplement deviner au fur et à mesure du court-métrage, sans pour autant dire directement qu'il est schizophrène et qu'il est en train de jouer contre lui-même.
Voilà. C'est justement, on utilise le fait que c'est une partie d'échec pour pouvoir amener le fait que le personnage principal est schizophrène. En fait.
Ah, je trouve que c'est une très bonne idée, mais comment vous y prenez? Qui fait quoi dans ce court-métrage?
Alors, nous avons...
On a deux acteurs.
Nous avons deux acteurs, donc moi-même qui joue le rôle du médecin, et Valentin qui joue le rôle du... Enfin, du et du coup des personnages qui jouent aux échecs, vu qu'ils sont en fait un. Et nous avons Luca qui fait le caméraman.
D'accord. Et comment vous y prenez pour jouer ces... Ces personnages, vous êtes entraînés, vous avez vu des, quelque chose à la télévision, vous, comment ça se passe?
On se sert des films qu'on a nous-mêmes vus dans, tout au cours de notre vie pour tout simplement on s'en inspire, on prend exemple. Hein. Mais c'est globalement, on n'a pas répété ou quoi, on fait.
Et étant donné que c'est notre premier, on essaye de faire comme on peut et d'apprendre.
Notre méthode, c'est si la prise est pas bien, on la refait.
C'est
tout simplement.
Exactement.
Digne d'un long métrage, d'un blockbuster. Hein.
Bah court métrage, long métrage, c'est juste la durée qui change au final. Oui, donc,
On vient de m'informer récemment en studio que vendredi la classe participe au festival du court métrage à la médiathèque de Longwy. Dites donc, Luca, parlez-nous de ces courts métrages que vous allez voir.
Je me permets de prendre la parole à la place de Luca là-dessus parce que visiblement il est déstabilisé.
Ah,
par
c'est une partie de plaisir, mon cher. Hein.
C'est-à-dire que pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup sur les courts-métrages qu'on va voir.
Il y en aura 14.
Et donc, voilà, il y en aura
ça
14.
Prendra toute l'après-midi. Ce sera la médiathèque de Longwy.
Voilà.
Et on vous invite à venir. Hein. C'est une séance ouverte, présentée par Madame Dubois.
Peut-être pas vraiment, mais...
oui, entre la classe et le lycée également, est fier de participer à ce prix. Peut-être Théo a quelque chose à rajouter. Théo, notre invité, notre sociétaire.
Je trouve que c'est une très belle opportunité pour notre classe de participer au prix du court-métrage.
Nissa, qui était tout à l'heure avec nous, voudrait nous parler de ce qu'elle fait. Elle participe au projet Voltaire. À la certification Voltaire. Nissa, qu'est-ce que la certification Voltaire?
Alors, cette année, je participe au projet Voltaire. Il s'agit d'une certification qui a pour objectif de certifier son niveau de maîtrise des difficultés de la langue française. Ce certificat a pour vocation à être mentionné sur un CV afin d'attester un niveau en orthographe. Un bon niveau en orthographe auprès de ces recruteurs.
Merci. Et Luca Gélésina, je vous laisse le mot de la fin.
Le mot de la fin.
Le mot de la fin, ce sera pour les SSI, justement. Oui. Donc... Nous sommes, et vous êtes, dans la section SSI, donc bac scientifique.
Sciences de l'ingénieur.
Voilà. Concrètement, à quoi s'attendre quand on rentre le premier jour dans la salle de sciences de l'ingénieur?
Il faut s'apprendre à étudier beaucoup de mécanique. En SSI, on étudie de la mécanique, un peu d'électricité, mais le programme de SSI se base plus vraiment sur la mécanique, sur l'utilisation des différents mouvements et des...
Beaucoup de théories.
Oui, beaucoup de théories. On fait quand même quelques activités pratiques autour de certains objets. Par exemple, une attelle de rééducation. On va s'amuser à l'étudier, à regarder comment elle fonctionne, les éléments différents comme le moteur, les solutions techniques qu'on peut apporter pour faire en sorte qu'elle fonctionne correctement.
Et mieux.
En fait, il y a beaucoup de similitudes avec le programme de techno qu'on apprend au collège, mais en bien plus détaillé et avec plus de maths surtout.
Oui, moi, je dirais ça comme ça.
Comme l'a dit Valentin, c'est bien comme la techno qu'il y a au collège, mais en extrêmement plus détaillé. On va vraiment dans les détails, alors qu'en techno, avec la techno du collège, on effleure seulement le programme.
Et quels sont les grands changements notables entre la première et la terminale, justement? Et nous recevons Amandine et Léa, qui sont justement dans cette classe de terminale SSI. Quels sont les changements notables de la première à la terminale?
Les grands changements, c'est qu'on a un projet interdisciplinaire à faire. Donc on doit faire un objet de son invention jusqu'à sa création et sa finalisation. Donc on doit concevoir le projet grâce à tout ce qu'on a vu en première. Et ensuite, on va le réaliser. On va faire d'abord des simulations. Et ensuite, on comparera avec notre objet réel et on fera donc la comparaison entre les deux.
D'accord. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous avez conçu, inventé?
On a conçu un objet pour les aveugles. Donc, c'est un capteur qui se place au niveau de la jambe, qui va détecter les obstacles sur le parcours. Et grâce à un module Bluetooth, l'information sera transmise au bracelet et sera donnée à l'aveugle par des vibrations.
Et est-ce que la recherche et la conception vous a pris énormément de temps ou
Non, bon, en fait, c'est venu assez instinctivement. On s'est dit qu'on voulait partir sur quelque chose de social qui touche les personnes handicapées parce qu'on aime bien et puis en général, les jurys aiment bien aussi. Et puis, on s'est tourné vers les aveugles et donc on s'est dit que ben, malgré toutes les technologies qu'il y avait aujourd'hui, ben, ils n'avaient toujours pas de nouvelles technologies développées pour eux.
D'accord. Et est-ce que le passage de la première à la terminale n'est pas trop dur en ce qui concerne les matières, par exemple les mathématiques, le sens de l'ingénieur, la physique chimique?
Y a beaucoup plus de travail, on a plus d'heures. Moi, par exemple, j'ai 9 heures de mathématiques. On a aussi 9 heures de SI. Après, on a aussi la spécialité à choisir. Personnellement, je suis en mathématiques et il n'y a plus personne qui fait maths à part moi. Mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir une matière en plus. Même si on la suit jusqu'à l'année, mais qu'on ne la prend pas pour le bac, c'est toujours un avantage pour l'année d'après.
Peut-être Léa, un petit mot?
Je sais pas quoi dire.
Quand vous aurez réalisé votre projet, vous déposerez un brevet dessus, vous le commercialiserez, vous deviendrez riche?
Si ça fonctionne, oui. Pourquoi pas?
On a déjà pensé, oui.
On vous souhaite du succès, du coup.
Merci.
Et une bonne note, une très bonne note au bac. Et tous mes voeux pour votre carrière professionnelle.
Mais surtout de l'argent.
Merci.
Merci à tous pour cette émission. Mais avant qu'on se quitte, j'ai une petite surprise.
Encore.
Encore et toujours. En première, les premières passent une épreuve.
On a aussi un projet. Les travaux personnels encadrés.
Merci beaucoup. Ils passent cette épreuve donc. Et je fais partie d'un groupe avec Frisoni Théo, Axel Ragouillot et Ryan Lemaître. On a choisi le flipper. Et Frisoni Théo a eu l'idée, mais quelle idée, de choisir. Et il va nous expliquer pourquoi cette idée.
Alors, notre TPE est basé sur mon idée. J'ai voulu étudier un système qui allie à la fois la mécanique, l'électronique et l'informatique. Et pour ça, j'ai choisi le flipper, donc qui est un système qui allie tous ces systèmes mécatroniques. Et je vais laisser mon collègue Axel vous en parler.
Alors bonjour à toutes et à tous.
Rebonjour mon cher Axel.
Rebonjour Lucas. Alors le flipper, au début il ne s'agissait pas d'un mix d'électronique, de mécanique, etc. Il s'agissait juste d'une simple planche de bois qui a, au fil des temps, évolué. Au début, il n'y avait qu'un seul joystick, c'est-à-dire un truc qui renvoie la bille.
Ah, je vous sens sûr de vous, mon cher Axel. Continuez, poursuivez.
Ensuite, ils en ont rajouté un deuxième. Et le premier vrai flipper, entièrement mécanisé, est arrivé aux alentours des années 50. Ensuite, dans les années 2000, ils ont commencé à remplacer toute la mécanique par les cartes mères pour les écrans à LED. Voilà, donc je vais laisser mon cher Théo continuer.
On passe l'examen final le 27 mars. C'est une présentation orale. On sera 4, ça durera 20 minutes. On a fait un diaporama PowerPoint.
Je voudrais surtout remercier l'entreprise Masse Automatique.
Masse Automatique à Fontoy, qui nous a gentiment accueillis et prêté du matériel.
Dont ce prêt de matériel est nécessaire afin de la bonne réalisation de cette TPE.
Exact.
Et
Ryan, un petit mot
pour la fin.
On passera devant un jury le 27 mars et c'est là où on verra ce qu'on a fait.
Et n'oubliez pas, jouez au flipper au lieu de jouer aux jeux vidéo.
Je vous remercie Axel, Théo, Ryan. Et je remercie également Artiom Nikolaev.
De rien.
Thibaut Vaujac.
De rien.
Luca.
Thanks, boy.
Nissa Belkessa.
De rien.
Valentin Vanzata.
Pas de problème.
Ryan Lemaître.
Je vous en prie.
Théo Frisoni.
Je vous en prie.
Et Axel Raguillot.
Merci à tous.
C'était Lucas pour le journal de 609. Merci à tous. Au revoir.